Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier. Dans ce podcast, Aventure Fiction, aventure avec un S et fiction au singulier, je vous parle de la culture des comics au sens large. Et comme il s'agit du tout premier épisode, faisons un peu les présentations. J'ai travaillé pendant 18 ans au sein du magazine spécialisé Comic Box. J'ai écrit plusieurs livres sur les comics et je donne depuis de nombreuses années des conférences sur les héros des comics et leurs auteurs. Et justement, je me suis dit que j'allais essayer autre chose, c'est-à-dire comme des conférences, mais que vous pourrez écouter depuis chez vous, dans votre salon, dans le train, où vous voulez. Parfois, il s'agira de sujets obscurs ou méconnus qui restent, je pense, j'espère, quand même très intéressants. Parfois, vous vous direz « Ah mais je connais cette BD ou cette série télé, et c'est pas du tout méconnu. » Mais peut-être que justement, j'arriverai à vous les faire regarder d'une autre manière. J'ai choisi ce titre d'aventure fiction, aventure avec un S et fiction au singulier. Alors, excusez-moi, je vais vous le refaire quelques fois pour que ça rentre. Parce qu'à la base, c'était le nom d'une vénérable anthologie de comics, publié à partir de 1958. C'était un véritable fourre-tout, au fil des ans on y a trouvé aussi bien des héros de DC Comics que de Marvel, que d'autres labels de comics encore, et puis on a trouvé aussi bien de la science-fiction que de l'heroic fantasy ou des super-héros. Dans l'idéal, que vous connaissiez à peine les comics ou que vous soyez des lecteurs endurcis, Aventure Fiction s'adresse à vous. En termes de rythme, j'envisage une moyenne de 3 épisodes par mois, mais seulement dans la mesure où ce podcast trouve un écho, une audience. Cela veut dire qu'il est préférable, bien sûr, que vous soyez au moins quelques-unes et quelques-uns à l'écouter, et puis que vous soyez quelques-unes et quelques-uns à bien vouloir participer à travers un système de pourboire, par l'intermédiaire d'une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Parce que pour faire ces recherches, passer du temps à la rédaction, l'enregistrement de ces podcasts, il faut quand même manger ou au moins payer le paquet de café. Et puis la page Tipeee vous permet aussi un petit peu d'interactivité, c'est-à-dire que les donateurs, forcément, auront une place de choix pour poser certaines questions, ou bien, sous réserve qu'il y ait des choses à dire, suggérer certains sujets. Le podcast Aventure Fiction va vous parler non seulement des grandes et petites histoires de la BD américaine, mais aussi de la culture populaire qui les entoure, je vous le disais en introduction. Et justement, dans ce premier épisode, nous allons voir ensemble que l'histoire, grande ou petite, est toujours écrite par les vainqueurs, ou tout au moins les survivants. Parce que par la force des choses, vous ne risquez pas d'avoir la version de ceux qui ne sont plus là pour la raconter. Dans les comics, c'est pareil, et cela se traduit souvent par un cliché assez facile à détecter. Régulièrement, on va réduire l'histoire des comics à la lutte que se livreraient depuis plus de 80 ans, deux frères ennemis, deux éditeurs géants, c'est-à-dire d'un côté DC Comics, la maison mère de Superman, Batman ou Wonder Woman, et puis de l'autre, Marvel, l'éditeur des Avengers ou des X-Men. En fait, c'est un raccourci extrême, et même plutôt une fabrication pure et simple, puisque dans les années 40, Marvel, à l'époque souvent appelé Timely Comics, était un éditeur de moyenne importance. C'est-à-dire qu'en dehors de 3 ou 4 personnages comme Captain America, vous allez me dire c'est déjà pas mal, les ventes de l'éditeur ne menaçaient pas directement DC Comics. Chez DC, on était beaucoup plus en concurrence avec des firmes telles que Fawcett ou Quality Comics, firmes aujourd'hui totalement disparues. Marvel faisait partie du gros du peloton. Il existait plusieurs autres maisons d'édition avec un niveau de vente similaire, voire même parfois supérieur à celle de Marvel. Ce qui a sauvé le futur éditeur des Avengers, au regard de la trace laissée dans l'histoire, c'est que l'univers de Marvel s'est réinventé avec succès en 1961, à commencer par les 4 Fantastiques, puis Spider-Man, puis les autres. Et c'est ce succès contemporain et moderne qui fait que rétroactivement, on s'intéresse à ce que cette société publie dans les années 40. Je vais vous parler dans quelques instants d'un éditeur aujourd'hui totalement oublié, mais dont les ventes à l'époque ont été régulièrement supérieures à celles de Marvel, et souvent de beaucoup. Un type qui, sans qui peut-être, vous ne connaîtriez pas aujourd'hui les comics et les personnages qui y sont nés. Un autre cliché associé aux comics, vu qu'il s'agirait d'un matériel de propagande, commandité par le gouvernement américain pour manipuler les foules et les préparer à la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, historiquement, c'est une bêtise, parce que ce sont des enfants qui lisaient ces revues, et ils n'étaient pas en âge d'aller à la guerre ou d'influencer les décisions de leurs parents. Il est vrai qu'une fois la guerre déclarée, de nombreux comics se sont fait l'écho des exploits des GI ou ont organisé des collectes de fonds auprès des gamins. Mais Captain America, pour prendre le héros patriotique le plus connu, n'a pas été un boulot de commande du gouvernement américain qui voulait manipuler les masses. Et ne croyez pas que je vous explique ça par simple affection des comics et des super-héros. Je n'ai pas de religion en la matière. Si demain surgissait un document prouvant que Superman ou Captain America ont été créés suite à une demande du gouvernement, je serais le premier à considérer que c'est une découverte historique. Cela changerait les choses. Mais à l'heure actuelle, ce document n'existe pas. Aucun des auteurs concernés n'a évoqué des directives reçues avant l'entrée en guerre. Captain America et les autres n'étaient que le reflet des préoccupations et des visions politiques des créateurs et des éditeurs concernés. « Pour tordre le cou aux deux clichés que je viens de vous énoncer, le meilleur contre-exemple est finalement la carrière de Lev Gleason, l'éditeur dont je vous parle aujourd'hui. Un éditeur aux ventes supérieures à celles de Marvel, donc, mais qui était pourtant fiché au FBI pour ses activités communistes supposées ou réelles. En cherchant bien d'ailleurs, certains de ses héros portent la trace de cette philosophie communiste. Alors entendons-nous bien, quand on parle de pratique du communisme aux USA, cela ne veut pas dire la même chose selon que les événements se déroulent vers 1933, 1943 ou 1953. On verra ensemble pourquoi. Mais alors, qui est ce mystérieux éditeur communiste qui, aujourd'hui, est totalement oublié? Leverett Stone Gleason est né en février 1898. Alors comme c'est un prénom pas très connu dans nos contrées, précisons que c'est bien Leverett, comme Everett mais avec un L devant, et pas Leverett comme la position pour le dire de façon très classe. De toute manière, le garçon va plutôt utiliser le diminutif de Lev, et le petit Lev grandit dans une famille de culture assez progressiste et idéaliste. Par exemple, Lev tenait son prénom d'un grand-père qui avait été militant de la lutte pour l'abolition de l'esclavage aux USA. Gleason est né en 1898. Calculé, il est encore adolescent quand la Première Guerre mondiale éclate. Alors qu'il suivait des études à Harvard, il quitte l'école en avril 1917 pour rejoindre l'armée. Et il arrive donc en France pour lutter contre les Allemands. Après 6 mois de combat, son régiment arrive à Noisy-le-Sec, en prévision d'un défilé militaire prévu le 4 juillet. Mais ils ignorent encore où il va se dérouler. Gleason et ses camarades comprennent bientôt qu'ils vont défiler à Paris. Et voilà ce que ce francophile écrit dans une lettre publiée par le journal des anciens de son école, le Philippe Bulletin. Donc ce sont les mots mêmes de Lev Gleason. Pouvez-vous imaginer combien cela comptait pour moi ? Paris l'immortel, Paris la cité de mes rêves. Était-il vrai, enfin, que j'allais visiter cet endroit dont je n'osais rêver ? Mais le reste de la lettre est beaucoup plus sombre. La région est encore marquée par l'offensive allemande, et Gleason raconte comment il est tombé dans un tas de carcasses de chevaux, d'humains, au coin d'une rue, en train de pourrir sur place. Et surtout, il raconte avoir croisé une voiture en panne avec un malheureux chauffeur qui tentait de la faire redémarrer, tandis qu'à l'intérieur, un général l'attendait, impassible, sans l'aider. Et ce petit incident, raconté dans une lettre publiée dans un journal d'anciens, montre qu'il y a déjà la trace du dédain de Gleason pour certaines autorités, en particulier militaires, alors que pourtant il est encore dans l'armée. Après les hostilités, il se passe quelques mois avant qu'il soit démobilisé. Lev Gleason n'est pourtant pas inactif, alors qu'il est coincé à Paris, il en profite pour suivre une formation littéraire à la Sorbonne. Fin juin 1919, pourtant, il tombe malade, fait un séjour dans un hôpital militaire, la base Hospital 57, située dans le lycée Montaigne, rue Auguste Comte. Puis il est renvoyé, du coup, aux États-Unis, mais il conserve ensuite un attachement à la France. Il y revient en 1921 pour des vacances, d'autant qu'il parle désormais et qu'il écrit le français couramment. En fin de compte, il restera dans le pays pendant plusieurs mois de l'été 1921 au printemps 1922. Alors certains pourront imaginer ou pas que c'est pendant ce séjour en Europe que Gleason fait quelques rencontres et qu'il est plus particulièrement exposé à des idées de gauche. Mais il semble plus probable que, comme beaucoup de soldats de la Grande Guerre des Nations, il soit marqué par l'ampleur du conflit et se reconnaisse plutôt dans un discours pacifiste de l'époque, empreint de plus jamais ça. Revenu aux USA, il débute une carrière dans la vente d'espaces publicitaires au sein d'un magazine destiné aux jeunes garçons. En fait, Gleason reprend assez vite tout le marketing du titre, puis le contenu éditorial. C'est ce qui va vraiment le faire entrer dans le monde de la presse. Alors, je pourrais détailler un peu le parcours de Gleason dans des sociétés qui ne nous intéressent pas, mais l'important, c'est qu'en 1933, on le retrouve travaillant pour Esther Color Printing, qui est donc une imprimerie, pour un job qui serait aujourd'hui l'équivalent d'un responsable de compte client. Gleason est déjà politisé. À l'époque, à New York, quand on s'inscrit pour voter, il faut aussi préciser pour qui on entend voter. Brett Dakin, le petit-neveu de Lev Gleason, qui lui a consacré une biographie ces dernières années, a établi que Gleason s'est inscrit en 1933, puis en 1935, comme votant communiste. Par ailleurs, à partir de 1935, un certain Alexander Lev participe à plusieurs publications de l'association American Friend of Soviet Union, l'AFSU, pour le prononcer de manière assez monstrueuse. Plus tard, cet Alexander Lev devient le manager de la revue Soviet Russia Today. Seulement, il apparaît bien après coup qu'Alexander Lev est un pseudonyme. L'adresse d'Alexander, on le verra plus tard, c'est celle de Gleason, qui est donc secrètement le manager de Soviet Russia Today sous un nom d'emprunt. Interrogé bien après, Gleason confirmera être devenu membre du Parti communiste vers 1937 et l'être resté jusqu'en 1939, au moment de l'alliance entre Hitler et Staline. Alors, Gleason raconte qu'il est déçu par le silence des communistes américains à ce moment et qu'il préfère quitter le parti. On verra que sans doute c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il place un peu sa date de départ du Parti communiste à un moment où c'est convenable ensuite pour l'opinion américaine. Eastern, l'employeur de Gleason, est un énorme imprimeur qui travaille pour de nombreux journaux d'information. De ce fait, la société fabrique le supplément du dimanche qui contient des bandes dessinées, ou plus exactement ce qu'on appelle des strips de presse. Et un jour, Gleason et un responsable commercial de la firme, Max Gehn, ont une idée lourde de conséquences. En jouant sur le format des BD de ce supplément du dimanche, il est possible d'obtenir des fascicules d'une 60aine de pages qu'on peut revendre ensuite, par exemple au réseau des stations d'essence pour qu'elles fassent des cadeaux publicitaires. Quelques mois plus tard, Eastern transforme l'essai en plaçant son fascicule Famous Phoenix dans des réseaux de magasins où ils sont revendus aux enfants. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que Gleason et Gaines créent un nouveau format physique, ou plus exactement, ils prennent les strips de presse du dimanche et ils en font quelque chose qui n'existait pas avant, ou en tout cas, pas de cette manière. C'est l'invention du comic book. Mieux que ça, en l'espace de quelques mois, ils font entrer ce comic book dans le réseau de la grande distribution. Puis en 1934, ils décident de mettre ce fascicule carrément en vente dans les kiosques. Gleason, Gaines et Stern sont donc les architectes du format comic book et de ce qui va être son réseau de vente principal pendant des décennies. En gros, si ces deux hommes avaient préféré devenir plâtrier peintre ou vendeur d'assurance, c'est toute l'industrie de la BD américaine qui aurait été profondément impactée. Bien sûr, peut-être que si Gleason et Gaines ne l'avaient pas fait, d'autres s'en seraient chargés. Mais enfin, ce sont eux qui s'en sont occupés. Et là, je pense que vous êtes en train de prendre la mesure de l'importance de Lev Gleason dans l'histoire des comics. Le succès est vite là, mais Stern, après tout, n'est jamais qu'un imprimeur qui, en quelque sorte, se contente de refaçonner du contenu que ses clients considéraient comme périmé ou sans valeur. Maintenant que cela se vend, les producteurs de bandes dessinées, pour la presse, se disent qu'après tout, ils peuvent aussi éditer leur propre comic book en direct. Alors, à une chose près, ils n'ont pas l'expérience commerciale de ce genre de revue, et ils n'ont pas la connaissance de ce qui se vend ou pas dans ce réseau. Lev Gleason est donc d'une importance stratégique. En 1936, il est débauché par Tip Top Comics, un autre fascicule, et devient son rédacteur en chef, soit son premier travail officiel du côté de l'éditorial. Pendant ce temps, de terribles événements se déroulent de l'autre côté de l'Atlantique. La guerre d'Espagne éclate en juillet 1936. La gauche, et donc les forces communistes, veulent défendre le gouvernement élu contre un coup d'État organisé par l'extrême droite. C'est ce camp qui va s'imposer, portant le général Franco au pouvoir. L'Amérique, peu soucieuse d'être impliquée dans ce conflit, se déclare neutre dans cette guerre et laisse tomber les loyalistes. Ou plus exactement, le président Franklin Roosevelt sait qu'il n'aura pas forcément l'appui d'une partie de la population pour aller aider des forces de gauche en Espagne. Il est donc publiquement neutre, mais dans le même temps voit d'un bon œil certaines associations américaines qui se forment pour soutenir les ennemis de Franco. Parmi ces structures, on trouve le Theatre Art Committee, ou le TAC, on pourrait traduire ça par le Comité des Arts Théâtraux, un collectif au nom étrange qui rapidement se met à réunir des Américains influents dans le milieu culturel. Bien que la date reste à définir, Lev Gleason va lui aussi intégrer le TAC. Il s'officialise ainsi antifasciste à une époque de la présidence Roosevelt, où c'est tout à fait toléré, voire même bien vu. Alors bien sûr, ces activités sont menées en parallèle de son travail. Courant 1937, on propose à Gleason, pour Tip Top Comics, une BD inédite à laquelle il ne croit pas du tout, tant elle lui paraît improbable. Il la refuse. Et on peut dire que c'est la première grosse erreur de sa carrière. Il va avoir dans les années suivantes tout le loisir de regretter cette décision. Car cette idée, publiée quelques mois plus tard, en 1938, chez un concurrent, va tout changer dans le ciel des comics. Cette idée, ce n'est pas un avion, ce n'est pas un oiseau, c'est Superman. Alors, il existe plusieurs explications possibles au fait que Gleason ait loupé le coche concernant Superman. La première, c'est que, comme la plupart des éditeurs du moment, il n'est pas cru en l'intérêt d'un type bardé de super-pouvoirs, tant il n'existait pas de personnage équivalent dans les comics de l'époque. Mais il y a aussi une autre possibilité qui tient à la lecture qu'on peut ou qu'on veut faire de Superman. Pour vendre une BD, vous devez faire la preuve de votre capacité à produire. Vous ne débarquez pas simplement avec un épisode ou deux cases. Siegel et Shuster, les créateurs de Superman, devaient donc très certainement arriver avec quelques pages dessinées, ou même des scénarios des chapitres suivants. Or, les pages qui seront publié en 1838 dans Action Comics 2, montre Superman qui se rend dans le pays fictif de San Nante, ravagé par la guerre, et qui ressemble fortement à ce qui se passe en Espagne. Superman sépare les généraux des deux camps et les menace au point que les militaires, effrayés, préfèrent arrêter de se faire la guerre. Et Superman rentre au pays après avoir démontré qu'arrêter la guerre en Europe, c'est simple. Alors je me garderai bien de vous dire que ça s'est passé comme ça, pour ces raisons-là, mais si on se met un instant à la place de Lev Gleason, un type assez concerné par la guerre civile espagnole et par la lutte contre le fascisme, pour rejoindre un collectif militaire, temps, voilà qu'on lui propose un héros qui, une fois passé son origine, semble donner une lecture simpliste, voire parodique de la guerre d'Espagne. Un héros qui en plus se fait appeler surhomme. Bref, un surhomme qui débarque dans une simili-Espagne pour se moquer des deux camps. Quand on est antifasciste, forcément, ça peut un peu coincer. Certains détails semblaient de nature à braquer Gleason. Après, la vérité, c'est que d'autres éditeurs ont refusé Superman sans être pour autant antifasciste, donc cette explication de Gleason refusant Superman à cause de la guerre d'Espagne n'est pas forcément exclusivement la bonne, mais elle reste fascinante. Quelle qu'en soit la vraie raison, Gleason a donc laissé passer le premier super-héros majeur de l'histoire. Mais pourtant, il en profite quand même indirectement. Car quelques mois plus tard, le lancement de Superman chez DC Comics change la donne. C'est le premier gros succès natif des comics, la première superstar médiatique à y être apparue. Superman est la preuve qu'on peut faire beaucoup d'argent en produisant des comics. À côté de ses activités éditoriales, Lev Gleason a aussi ouvert un restaurant situé dans Broadway, chez Kent's. Gleason, qui est toujours affilié au Theater Art Committee, achète de la publicité dans les bulletins de l'organisation et promet d'accueillir de manière privilégiée tout membre du TAC qui se présente de sa part au restaurant. Suite à l'essor des comics, Gleason décide d'arrêter la restauration et de se recentrer dans l'édition, mais cette fois de manière perso. Et puisque Lev Gleason sait comment on fait des comics et des magazines, il décide de franchir le pas. Il ne travaillera plus pour d'autres. Fin 1939, il lance sa propre maison d'édition. Mais s'il sait comment fabriquer des comics et bien les vendre, Gleason n'est pas un auteur. Il va donc recruter le scénariste et dessinateur Jack Cole et d'autres artistes. Cole devient en quelque sorte le premier directeur artistique de la société. La première revue, Silver Street Comics, paraît en décembre. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit fameuse. Et ça à plusieurs niveaux. Le personnage le plus marquant de la publication, c'est The Claw, une création de Jack Cole. Et le concept de base n'est pas très humaniste pour le coup. Le personnage est un anti-héros et même plutôt un super-vilain, quelque part entre Dracula et Namor le prince des mers. The Claw ressemble à un asiatique monstrueux, littéralement grand comme une montagne, qui dirige un réseau criminel dans le Pacifique. The Claw n'est ni plus ni moins qu'une caricature raciste. Mais dans l'Amérique des années 30, ce cliché est assez répandu. On parle de la peur du péril jaune. Les romans de Fu Manchu sont diffusés partout et même adaptés dans les premiers numéros de Detective Comics chez DC. Si bien que la caricature raciste qu'est The Claw ne choque guère le public, en tout cas à l'époque. The Claw restera pendant des années un protagoniste très régulier des titres de Lev Gleason. Tout au plus, il semble que l'éditeur ait tenté de modérer un peu la chose dans les mois suivants en recoloriant ou en rebaptisant brièvement le personnage de Green Claw, à savoir la griffe verte, histoire de dire qu'il n'est pas jaune. En fait, la version Green Claw ne fera pas long feu et on restera plutôt sur un monstre géant jaune. Les autres héros de l'anthologie, Mr. Midnight, The Wasp ou encore Spirit Man, seront assez vite passés à la trappe tant ils ressemblent en moins bien à d'autres personnages qui existent déjà ailleurs. Comme par automatisme, Gleason, vieux routard de la vente d'espace, a cédé une pleine page de publicité au concurrent Marvel Comics qui vient alors de débuter. Mais pour ce qui est de leur propre contenu, Gleason et son équipe font probablement très vite le constat qu'il leur manque un personnage plus fort pour incarner la revue. Et c'est ainsi que, dans Silver Streak 3, en mars 1940, apparaît un super-héros nommé, enfin, Silver Streak, soit la traînée argentée. A la base, ce nom de Silver Streak, c'est le modèle de voiture que possédait l'un des associés de Gleason. Et c'est de là qu'est venue l'idée du titre dans l'anthologie. Au moment d'inventer un héros qui correspond à ce nom, c'est sans doute ce qui a fait qu'on s'intéresse à l'idée de vitesse. Et comme justement le héros Flash a été inventé par la concurrence deux mois plus tôt, les publications Gleason se découvrent donc un nouveau héros super rapide. Alors c'est effectivement beaucoup mieux que les anciens héros de cette jeune revue, mais l'origine de Silver Streak, créée par Joe Simon, le futur co-créateur de Captain America, bah cette origine donc c'est un vrai poème en un sens. Silver Streak, à la base, c'est l'histoire d'un mage surpuissant qui a fait construire une voiture de course expérimentale. Parce que les mages surpuissants, ils n'ont que ça à faire. Elle est trop rapide et personne n'ose la conduire. Alors du coup, notre mage surpuissant, manquant de candidat, il en vient à hypnotiser un chauffeur de taxi qui passait par là et il le force contre sa volonté à devenir son pilote de course. Mais l'homme est attaqué par un insecte géant, ne riez pas, un insecte géant qui le tue. Alors le mage ressuscite l'homme et quelque part dans ce grand n'importe quoi, le procédé donne à l'ex-chauffeur de taxi des pouvoirs liés à la super vitesse. On nous expliquera assez vite qu'il est forcément l'homme le plus rapide au monde, tout comme Flash chez DC. Même si les origines sont très maladroites, Silver Streak va durer quelques années, et donc après The Claw, le deuxième personnage vraiment viable de l'éditeur, mais il est surtout un pas dans la bonne direction. Gleason n'est pas intéressé que par les comics. À côté des aventures colorées, à peu près au moment de la création du héros Silver Streak, il devient aussi le responsable de la diffusion d'un magazine nommé Friday. C'est un magazine situé plutôt à gauche, qui s'est donné pour mission de dénoncer les travers les plus droitiers, voire fascistes de la société américaine. On y attaque le racisme, l'antisémitisme, l'inégalité social. Friday est aussi opposé à la guerre. Il attaque ouvertement Hitler, mais considère qu'aucun des camps en Europe n'est appréciable. Comprenez par là que même des pays comme la France, la Grande-Bretagne, ont des mouvances fascistes. Le journal se demande pourquoi aller faire la guerre pour des gens comme ça. C'est un magazine militant, surtout dans le contexte de l'Amérique de 1940. Gleason ne se contente pas de vendre Friday, il est aussi impliqué dans le contenu éditorial de la revue, au point de répondre à certaines interviews quand le rédacteur en chef ne le peut pas. Toutes ses activités politiques ne passent pas inaperçues, et dès février 1941, un numéro du New York Times décrit Gleason comme très actif dans les affaires communistes. Mais revenons aux comics. En septembre 1940, dans Silver Streak Comics 6, les jeunes lecteurs vont faire la connaissance d'un certain Daredevil. Et alors là, vous allez me dire que oui, Daredevil, c'est un personnage de Marvel, que c'est un héros aveugle dont vous avez suivi les aventures dans des comics modernes ou encore dans une série télévisée chez Netflix. Oui mais non. En 1940, Gleason commence effectivement à publier les aventures d'un acrobate masqué nommé Daredevil, qui se situe quelque part entre Batman et Captain America. On nous explique brièvement qu'alors qu'il était enfant, les parents du jeune Bart Hill ont été assassinés, et lui torturé par des crapules au point de le rendre muet, en tout cas au début. Se lassant rapidement de devoir gérer un personnage qui ne peut pas parler, les scénaristes suivants nous montreront que Bart Hill est guéri, qu'il va mieux. Mais au début donc, c'est l'un des rares héros muets. Habillé dans un costume bleu et jaune caractéristique, le héros a pour accessoire de prédilection le boomerang. Et entre le motif de la vengeance familiale familial est l'équivalent du batarang, on prend la mesure du côté batmanien de ce personnage. Ce premier Daredevil est la création du scénariste Don Rico et du dessinateur Jack Binder. Si le style de Binder est identifiable, le scénario n'est pas signé. Mais Rico a revendiqué plus tard la paternité du personnage, et le nom, ou en tout cas une variante du nom de Rico, orthographié avec deux C, est caché par Binder dans une pancarte aperçue dans l'épisode. Alors, il y a plusieurs ironies dans ces débuts de Daredevil, ou plusieurs ironies dans ce Daredevil des débuts, à commencer par le fait qu'ensuite, Don Rico ira travailler pour Marvel et qu'il sera, près d'un quart de siècle plus tard, le créateur de l'espionne soviétique Black Widow. C'est drôle quand on prend en compte les vues politiques de Gleason, mais il y a aussi le fait que dans les années 70, Black Widow va être en couple avec le Daredevil de Marvel. Don Rico est donc le créateur d'un Daredevil et de Black Widow, qui croisera, elle, plus tard, le chemin du Daredevil de Marvel. La dernière ironie pour l'instant, c'est que le Daredevil de Rico et de Binder débute donc dans un costume bleu et jaune. Réalisant sans doute que le personnage a du potentiel, Jack Cole le reprend en main dès le numéro suivant et il réinvente le costume. Daredevil adopte donc, à partir de ce moment-là, un costume rouge et bleu. 24 ans plus tard, le Daredevil de Marvel va débuter dans un costume jaune et noir, puis sera relooké quelques mois plus tard par Wally Wood, qui lui donne un costume rouge. Bien que les costumes des deux Daredevil soient totalement différents, on reste donc avec l'impression que les destins des deux personnages sont parallèles. Comme l'éditeur a désormais un super-héros charismatique avec ce Daredevil, et qu'il avait déjà un super-vilain assez spectaculaire avec The Claw, dès Silver Streak 7, en janvier 1941, il est décidé d'organiser un combat entre les deux personnages, combat qui va s'étendre sur plusieurs épisodes. La reprise en main de Daredevil est notable dans le sens où le ton est maintenant un peu plus politisé. Rappelons que Gleason est l'éditeur, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas lui-même les histoires. Mais cependant, certains éléments affichés diffèrent des comics publiés par les concurrents. Par exemple, cette fois, l'épisode commence en nous montrant l'Europe déchirée par la guerre. Et puis très vite, on change de scène, on va en Amérique, on retrouve Bart Hills, alias Daredevil, en train de pique-niquer paisiblement avec sa fiancée Tonya. Soucieuse, cette dernière dit qu'elle se sent presque coupable de ce bonheur alors que les gens d'Europe souffrent autant. Bart Hills lui répond alors avec une formule alambiquée en lui expliquant que quand il était gamin et qu'il buvait du soda, il faisait exprès de pincer sa paille pour que le fait de boire dure plus longtemps. Le sens de cette scène, et de cette parabole, c'est de dire qu'il faut profiter du bonheur tant qu'il est là, et que ça ne va pas durer éternellement. Il l'explique. La paix, c'est comme ça. On s'y accroche aussi longtemps que possible. Et puis quand elle n'est plus là, on doit se battre pour la regagner. Près d'un an avant Pearl Harbor, avant même l'invention de Captain America, l'Amérique est encore très partagée sur le fait d'aller ou pas à la rescousse des Européens. Et les deux personnages discutent ici, à travers la parabole du soda, de l'imminence de la guerre, y aller ou pas. Tonya se fait du souci pour l'Europe, tandis que Bart, le héros donc, dit lui qu'il faut profiter de la paix tant que ça dure. Autrement dit, le temps que ça ne concerne pas les États-Unis. À peu de choses près, Daredevil reflète les éditos du magazine Friday. Il ne faut pas s'en mêler, tout en sachant et en regrettant que forcément un jour il faudra se battre. Alors ça peut nous paraître surprenant que le personnage, comme le Magazine Friday d'ailleurs, ne fasse pas la différence entre occupé et occupant, agressé et agresseur. Mais il faut se remettre dans le contexte de 1941. À l'époque, par exemple, le gouvernement français, c'est celui de Pétain, et il est également en place. Après le traitement des Espagnols, et d'une certaine manière, le traitement général de tous les étrangers, Gleason et son entourage sont bien placés pour savoir le peu de cas que Vichy fait des réfugiés politiques. En 1941, la question de savoir qui sera à la tête de la France en cas de défaite des Allemands ne semble pas claire. Pétain apparaît donc légalement, je l'ai dit, en place, et du coup, vu d'ailleurs, cela ne sent pas forcément le régime politique très humaniste une fois que les Allemands seront partis. Daredevil, et à travers lui ses auteurs, pourrait être plutôt tenté de rapprocher Pétain de Franco. D'autant que dans le même temps, l'implication militante de Gleason continue. Le Joint Antifasciste Refugee Committee est créé en 1941 pour venir en aide aux républicains espagnols réfugiés en France. Leur sort est d'autant moins enviable que le gouvernement de Vichy ne les voit pas du tout d'un bon œil. Le comité s'est donc créé pour leur envoyer une aide humanitaire, voire les évacuer dans des pays plus amicaux. Parmi les fondateurs et dirigeants du comité, on trouve, j'allais dire presque logiquement, Lev Gleason. L'initiative semble consensuelle et s'attire le soutien de nombreuses personnalités. Si ce n'est qu'au bout de quelques temps, le comité est soupçonné d'avoir été infiltré par les communistes et de servir les seuls intérêts de ces derniers. Du côté des publications Gleason, en faisant s'affronter Daredevil et The Claw, les publications Gleason lorgnent un peu sur ce que Marvel Comics a fait quelques mois plus tôt, quand deux de ses héros, Namor le Prince des Mers et puis le premier Human Torch, personnifiant l'eau et le feu, se sont rencontrés et affrontés pendant plusieurs numéros. C'est ce qu'on appelle un crossover. Chez Gleason, le héros masqué Daredevil et le monstre géant The Claw vont donc se combattre pendant plusieurs mois, l'un devenant le pire ennemi de l'autre. A l'évidence, Gleason est content du résultat, et il va transformer l'essai en s'inspirant à nouveau d'un autre coup de Marvel. « fin 1940, début 1941, en effet, Captain America vient de débuter avec un numéro qui a fait sensation. Le héros sur la couverture cassait la figure à Hitler. C'est un succès immédiat. L'équipe de Gleason décide de rapprocher son Daredevil du Captain America de la concurrence. On verra tout à l'heure à quel point. Mais le premier débouché de cette volonté, c'est de donner sa propre série à Daredevil, série dans laquelle, contrairement aux hésitations de Bart Hill quelques mois plus tôt, il va aller combattre Hitler. D'ailleurs, le premier numéro n'est pas un Daredevil Comics numéro 1, mais bien un singleton, Daredevil Battles Hitler, dans lequel le héros en rouge et bleu va parcourir le monde pour combattre non seulement Hitler, c'est marqué sur la couverture, mais aussi tous les alliés des forces de l'Axe. On croise des nazis, des italiens, des japonais. La dernière histoire de ce numéro est l'une des premières biographies d'Hitler dans les comics. Elle est intitulée « L'homme de la haine, Adolf Hitler ». Et elle raconte le parcours du leader nazi, de ses débuts en politique, jusqu'au stade de dictateur allemand. Si ce n'est que vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ? Un tout petit truc, un pays, un nom. Que ce soit dans l'histoire principale ou dans la biographie d'Hitler, l'impasse est totale en ce qui concerne les soviétiques. Ils n'existent pas dans cette version des choses. Et ça, dans les deux histoires, alors qu'elles ont des scénaristes différents. Alors les bonnes âmes, douées en histoire, diront que c'est normal. Effectivement, les nazis et les soviétiques étaient alliés jusqu'à la rupture du pacte germano-soviétique le 22 juin 1941, il y a précisément, un ou deux jours près, 80 ans. Et Daredevil Battle Hitler est daté de juillet 1941. Sauf que d'abord, si ce comic book avait été conçu au lendemain de la rupture entre les nazis et les soviétiques, il y aurait des délais incompressibles de traitement, d'impression et de distribution. Et surtout, l'usage dans les comics, c'est d'antidater la couverture de manière à ce que les revues restent plus longtemps en kiosque. En l'occurrence, si on ignore précisément la date de sortie de Daredevil Battles Hitler, on a celle du numéro suivant de la série, Daredevil Comics 2, qui est paru très précisément le 27 mai 1941, tout en étant daté sur la couverture d'août 1941. À vue de nez, cela nous place la sortie de Daredevil Battles Hitler aux alentours de la fin avril 1941. Grosso modo, l'épisode paraît au moins deux mois avant la rupture du pacte germano-soviétique. Gleason fait le choix d'ignorer totalement le rôle de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale, là où d'autres éditeurs n'ont pas le même blocage. Il est difficile de ne pas y voir une volonté de Gleason de passer sous silence la tolérance des soviétiques envers Hitler. Dans la vision de Gleason, le communisme lutte contre le fascisme. Sauf que là, ce n'est pas vraiment le cas. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur ses vieux jours, Gleason expliquera avoir quitté le Parti communiste vers 1939, déçu de son silence au moment de l'alliance entre Hitler et Staline. Mais le moment venu, les publications de Gleason, elles aussi, préfèrent se taire. De toute façon, la réalité se corrigera deux mois plus tard, quand les nazis se retourneront contre l'URSS et que les soviétiques redeviendront, au moins pour un temps, fréquentables. Ironiquement, la publication du magazine Friday s'arrête fin 1941, quelques jours après le pacte germano-soviétique. Non pas qu'il y ait quelque chose à y voir, c'est que, tout simplement, la revue est criblée de dettes. Pour en revenir à Daredevil Battle Hitler, l'écriture de l'épisode principal est assurée par Charles Biro, un talent appelé à prendre de plus en plus d'importance dans la société de Gleason. Avec son ami et partenaire d'écriture, Bob Wood, ils deviendront rapidement les responsables éditoriaux de la firme, un peu l'équivalent de Stan Lee et Jack Kirby pour Gleason. En lieu et place d'une mention Stan Lee présente, comme Marvel aimera le faire plus tard, Biro et Wood signent parfois d'un pseudonyme commun, comprimant leurs deux noms, Woodrow. Ils vont aussi jusqu'à apposer leurs deux noms, pour le coup leurs deux vrais noms, sur la couverture. Fidèle à ses principes, Lev Gleason leur proposera rapidement un intéressement au bénéfice de la société. Autrement dit, le deal est bien plus intéressant que ce que proposent la plupart des autres éditeurs de l'époque. Dès Daredevil Comics numéro 2, voici Biro et Wood qui commencent à reprendre les choses en main en introduisant de nouveaux héros, un peu moins ridicules, mais qui seront finalement eux aussi vite oubliés. Biro devient le scénariste régulier de Daredevil, et Bob Wood lance un nouveau héros patriotique, le pionnier, qui ne fera pas long feu. Il y a aussi London, supposé incarner l'effort de guerre des Anglais, héros créé par Jerry Robinson. Mais outre la présence régulière de Daredevil, le numéro se distingue par l'arrivée d'un personnage que l'on peut considérer comme la Wonder Woman des éditions Gleason. Alors bon, en théorie, il faudrait plutôt dire le contraire, puisqu'en fait, pas de Patriot démarre en mai 1941 et que Wonder Woman, elle, sera publiée seulement à partir de l'automne. Mais sinon, tout y est. C'est une belle femme brune, habillée dans un costume dérivé du drapeau américain. Cela dit, Pat Patriot vaut le détour, surtout si on s'intéresse à un décodage politique des éditions Gleason. Coécrite par Biro et Wood, Pat Patrios, avec un S au début, est une jeune femme qui travaille dans une usine où les cadences sont infernales. Si bien que certaines de ses collègues commencent à faire des malaises, et Pat va protester auprès de la direction. Mais le patron lui reproche de vouloir faire passer le confort du personnel avant les besoins de la défense du pays, puisque l'usine fabrique des avions pour l'armée. Aussitôt, sur le champ, renvoyé. Plus loin dans l'épisode, Pat est invitée à une fête costumée, et ne sachant pas trop quoi mettre, elle se confectionne un déguisement qui reprend les couleurs du drapeau américain. Tombant fortuitement, comme le font les héroïnes en ces occasions-là, sur des saboteurs, elle les arrête, et quand on lui demande son nom, et qu'elle dit son nom civil, donc Patriot, la foule comprend mal. Elle croit entendre Patriote. Par la force des choses, la voici devenue l'héroïne costumée, Pat Patriot. Et c'est un nom qui va lui rester. Mais ce qui reste le plus intéressant chez elle, c'est cette origine. C'est C'est-à-dire que si elle était parue quelques mois plus tard, on serait convaincu qu'elle est une réponse à Wonder Woman, tant c'est socialement son opposé. Pat Patriot n'est pas une princesse, c'est une ouvrière. Qui plus est, c'est une ouvrière qui fait passer le bien de ses collègues avant les besoins militaires de la nation. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est un peu plus dans le registre de l'effort inconditionnel pour le pays. Le patriotisme classique voudrait que les ouvriers soient représentés, contents de contribuer à la défense. Au lieu de cela, Pat Patriot va se plaindre au patron et elle est virée sur le champ. C'est essentiellement l'histoire d'une syndicaliste. Il semble qu'au moins une partie de l'équipe éditoriale de Gleason partageait ses opinions. Parfois, on croirait presque un film. Parmi ses collaboratrices, on trouve l'Ukrainienne Bella Kimenfield, elle-même membre du Parti communiste. Elle va travailler dans la société jusque dans les années 50. A priori, ni Biro ni Wood ne partageaient l'activisme de Gleason. Mais ils s'entendaient cependant assez bien avec leur patron, avec eux aussi une volonté d'égalité et de justice sociale. Biro en particulier amène à Gleason une volonté accrue de parler aux jeunes, s'inspirant à nouveau de ce qui se fait chez Marvel. Dans les aventures de Captain America, on trouvait en effet une bande de jeunes, d'abord surnommés les Sentinels of Liberty, rapidement devenus les Young Allies. Joe Simon et Jack Kirby, les créateurs de Captain America, transplanteront d'ailleurs vite l'idée chez DC, en inventant plusieurs gangs de jeunes similaires, que ce soit la Newsboy Legion ou encore les Boys Commando. Biro va en faire de même avec Daredevil, qui recueille lui aussi un groupe de gosses, les Little Wise Guys, les petits gars malins. Biro et Wood créent dans la même logique un autre concept, le jeune héros adolescent, Crimebuster, dont les parents sont tués par les nazis. Alors Crimebuster, il est relativement populaire à l'époque et il se distingue par son ennemi juré, un nazi, une sorte de brute épaisse surnommé Iron Joe. Normal, car sa mâchoire a été remplacée par une sorte de piège à loup et Iron Joe veut dire mâchoire de fer. Si vous vous souvenez de Requin, un ennemi de James Bond qu'on reconnaît à une mâchoire de métal, c'est essentiellement le même personnage, jusqu'à la carrure d'ailleurs. Même si vous ne vous intéressez pas aux comics du Golden Age, mais que vous soyez fan de rock, il est possible que vous ayez déjà aperçu une variation de Crimebuster. En 1996, on le retrouvera sur la couverture de l'album Evil Empire de Rage Against the Machine, à ceci près qu'un E pour Evil Empire remplace le C de Crimebuster. Charles Biro va aussi avoir une aventure étonnante qui va être déterminante pour l'avenir du groupe Gleason. Un jour que le scénariste est dans un bar, un inconnu l'aborde en lui proposant de prendre sa femme. Oui, vous avez bien entendu, de prendre sa femme. L'inconnu lui explique que son épouse, qui attend dans une proche chambre d'hôtel, aime être bien prise par des inconnus et que lui aime bien regarder. Biro, jugeant la proposition étrange, préfère refuser. Mais dans les jours suivants, il apprend que l'autre homme a été arrêté. Il s'agissait en fait d'un pervers qui séquestrait les femmes et qui les droguait. En se présentant comme l'époux de ses victimes, il organise ainsi des viols par procuration. Passablement surpris en apprenant la nouvelle, Biro réalise à ce moment-là non seulement qu'il l'a échappé belle, mais aussi que la réalité, encore une fois, dépasse la fiction. Biro propose donc à Gleason une anthologie policière, plus ou moins basée sur des faits réels, ou tout au moins présentée comme telle. Le titre de la série sera Crime Doesn't Pay. Le crime ne paie pas, et sera un succès énorme. Alors dans cette série, il y a beaucoup de choses, à commencer par un ton généralement sombre et lugubre, qui précède et annonce les EC Comics des années 50. Ce que Crime Doesn't Pay annonce aussi, ce sont les années de pression morale et de censure dont souffriront les comics dans les décennies suivantes. Dès la sortie des premiers numéros, Crime Doesn't Pay s'attire les foudres des milieux conservateurs. Enfin, comment les auteurs osent-ils raconter tant d'horreurs dans les bandes dessinées? Eh bien, c'est le coup de génie de Biro, ce ne sont jamais que les faits divers qu'on peut lire dans la presse du même moment. Mais transformés en BD, ces mêmes faits divers déclenchent la colère des organisation parentale. Le public, lui, suit. Dans la seconde moitié des années 40, chaque numéro de Crime Doesn't Pay sera attiré à environ 1 million d'exemplaires, dépassant de loin les ventes de la plupart des super-héros. Mais avant cela, Biro va trouver le moyen de réunir son intérêt pour les jeunes héros, comme les Little Wise Guys ou Crimebuster, avec cette notion de faits divers et d'histoire vraie. Boy Comics, la revue dans laquelle Crimebuster est publié, va contenir également une rubrique sur le Boy Hero of the Month, le garçon héros du mois, qui va raconter les histoires vraies de jeunes héros de la guerre. Il y a quelques années, j'écrivais Comics en guerre, un livre sur la façon dont les BD américaines ont raconté, chroniqué la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais été surpris de tomber sur un numéro racontant de manière détaillée la vie de Guy Moquet, jeune militant communiste français qui a finalement été fusillé. Mais en y regardant bien, on trouve d'autres numéros, d'autres profils du même ordre. Un autre épisode, par exemple, raconte la vie d'Alexandre Tchekoline, un jeune martyr russe. Cependant, il convient de noter qu'au moment de la bataille de Stalingrad, les soviétiques sont devenus bien plus populaires pour les médias américains. L'opinion publique admire leur résistance face aux nazis, et on trouve un certain nombre d'épisodes publiés chez Marvel ou encore Fawcett qui louent le courage de certains héros ou héroïnes de Stalingrad. Reste que cette fameuse rubrique de Boy Comics, qui célèbre à l'occasion le courage de jeunes militants communistes, prend une saveur particulière quand on connaît les idéaux du patron de la société. Mais bientôt, la guerre rattrape le pacifiste Lev Gleason. Il a rejoint l'armée en juin 1942, mais il n'y reste qu'un an, sans avoir été envoyé au combat. Il est grièvement blessé à une jambe et finalement libéré de ses obligations dans le courant 1943. « La même année, Lev Gleason fait un séjour au Mexique, le temps d'une convention internationale réunissant les organisations qui aident les réfugiés espagnols, et forcément s'oppose au fascisme. Il y représente le Joint Antifascist Refugee Committee, dont on a parlé tout à l'heure. Ce séjour va être lourd de conséquences, car l'événement est très surveillé par le FBI. Et c'est à cette occasion que Gleason est très remarqué par les fédéraux, qui décident de le mettre sous surveillance. C'est l'ouverture d'un dossier qui, à terme, va compter une centaine de pages, considérant Gleason comme, je cite, « une figure clé des milieux communistes à New York ». Cette surveillance va durer des années. Bientôt, Gleason s'installe avec son épouse à Chapaca, dans la région de Newcastle. En deux mots, et pas comme Newcastle chez les Anglais. C'est une petite ville de banlieue de moins de 2000 habitants, à l'écart de New York. Malheureusement pour l'éditeur, c'est une communauté très conservatrice. Si bien que le sang de Gleason ne fait qu'un tour quand il lit le discours d'un responsable de l'American Legion, une organisation nationaliste. L'homme, en effet, se lamente que les petits Américains sont si mal éduqués qu'il croit que l'URSS est une démocratie. Furieux, Gleason écrit une lettre, une sorte de droit de réponse, publié dans le journal local, le Newcastle Tribune. Il veut prendre la défense de l'Union soviétique, expliquant que justement, les enfants américains seraient très mal éduqués si on leur laissait croire que l'URSS de Staline n'est pas une démocratie. Bah oui, vous imaginez. Pour lui, elle l'est, et il détaille pourquoi dans l'article. Pendant ce temps, le FBI surveille tout cela, au point de fouiller dans le courrier des Gleason, pour noter quelles lettres ils reçoivent et qui les envoie. Le FBI place aussi des indices, interroge les notables de la ville, comme par exemple le chef de la police. C'est une manière indirecte mais réelle de mettre la pression sur Gleason. Parce que imaginez que vous soyez son voisin. Vous habitez cette bourgade de moins de 2000 habitants, vous êtes tranquille, et d'un seul coup, le FBI débarque en vous demandant si vous avez remarqué des activités communistes chez Gleason. Forcément, les rumeurs vont vite démarrer. Il faut bien voir qu'à l'époque, l'éditeur ne se calme pas de son côté. Un jour, Lev Gleason rencontre le romancier Howard Fast. Celui-ci lui parle de Tito, le leader yougoslave. Fasciné par ce que son interlocuteur lui raconte, Gleason accepte d'éditer en 1944 une biographie intitulée The Incredible Tito, l'incroyable Tito. Biographie dont les bénéfices seront reversés forcément aux réfugiés et victimes du fascisme. En décembre 1944, Gleason fait aussi partie du comité de direction de la People's Radio Foundation, un projet de radio new-yorkaise, soupçonné ensuite de vouloir propager des idées communistes à travers la population. Du coup, la radio n'obtiendra finalement pas de permis d'émettre, mais l'information, la présence de Gleason dans ce projet, vient encore alourdir le dossier du FBI. Chez lui, à Chapaca, Lev Gleason continue aussi de faire bouger les choses. Et comme ce qu'il lit dans le Tribune, le journal conservateur, continue de l'irriter jour après jour, l'éditeur de comics décide de créer de toutes pièces un nouveau journal local pour concurrencer le Tribune. Ce sera le Newcastle News, lancé en 1945. Gleason s'attire ainsi la haine de tous les conservateurs du secteur, et à partir de ce moment-là, le reste de la presse locale ne va plus le lâcher. Enrôlé dans deux guerres mondiales, Gleason est sensible au sort des soldats qui reviennent du front. En 1945, il participe au lancement de Salut, un magazine qui est supposé célébrer les militaires rentrant au pays. Mal lui en prend. Un journal s'émeut alors qu'un magazine sur l'armée va être édité par un pro-communiste. Furieux, Gleason décide de porter plainte pour diffamation. C'est une erreur de sa part, car à partir de ce moment, le journal qu'il attaque va creuser et faire remonter encore plus de choses, comme sa participation au magazine Friday, et puis surtout le démasquer comme ayant été secrètement Alexander Lev, le manager de Soviet Russie. Ça commence à faire beaucoup. Gleason finira par abandonner les poursuites, n'ayant pas envie que d'autres détails de son engagement soient exposés. En 1946, le Tribune identifie le couple Gleason comme des membres du Independent Citizen Committee of Art, Science and Profession, une nouvelle association considérée comme relevant de l'extrême gauche. Et on reproche à Gleason de recevoir chez lui, pour des réunions de cette nouvelle association, beaucoup trop de personnes connues pour être des militants de gauche, voire carrément des communistes. Du côté du FBI, on reste sur le dossier. Les fédéraux vont même arriver à placer une ou plusieurs taupes à l'intérieur de ces réunions pour leur apporter de façon détaillée ce qu'il s'y dit. Mais le pire reste à venir. La même année, Gleason commence à être rattrapé par sa participation au Joint Anti-Fascist Refugee Committee. Les autorités ne se contentent plus de soupçonner le comité d'être une façade communiste. Elles l'ont classé dans une liste d'organisations anti-américaines et commencent à enquêter sur ses membres et dirigeants. La goutte qui fait déborder le vase, c'est que certains responsables du comité refusent de transmettre la liste de ses donateurs et de ses bénéficiaires aux autorités de peur à ce qu'elles transmettent elles-mêmes cette liste au régime de Franco. Gleason n'est apparemment pas au courant de cette histoire, mais la justice ne fait pas dans la dentelle. Dans le doute, elle préfère inculper tous les dirigeants du comité d'avoir détourné des fonds au profit de puissances ennemies. La pression s'accroît. En mai 1946, dans son journal, Newcastle News, Gleason publie un éditorial intitulé « Ne croyez pas les rumeurs ». Il parle de bruit qui court concernant la présence de communistes à Chapaca. Gleason explique que la ville est si petite que le parti communiste n'a sans doute jamais entendu parler de l'endroit. En 1947, au terme de la procédure dont on a parlé tout à l'heure, tous les responsables du Joint Antifascist Refugee Committee, y compris Gleason, sont jugés coupable et passible de peine de prison. Finalement, après négociation, certains dirigeants ne sont condamnés qu'à du sursis et à des amendes. C'est le cas de Gleason, il échappe à la prison, il est donc libre. Mais il reste condamné quand même à une époque où il ne fait pas bon passer pour un agent des soviétiques. Les journaux concurrents de Gleason et de son Newcastle News s'en donnent à cœur joie. Voilà qui nous ramène aux comics que Gleason publie à la même époque. Dans Daredevil Comics numéro 42, en 1947, Charles Biro se lance dans un épisode qui change tout pour le héros. Daredevil, alias Bart Hill, est suivi par Kilroy, un journaliste qui arrive à découvrir sa double identité. Kilroy publie alors un article dans le journal pour lequel il travaille, et tout le monde sait désormais qui est Daredevil. Bart Hill est dévasté, il ne pourra plus être le justicier masqué. Pour les lecteurs de l'époque, l'événement doit être similaire à ce que le public contemporain a ressenti à la lecture de comics tels que la mort de Superman ou la BD Civil War. Mais bizarrement, le journaliste Kilroy revient voir le héros. Il lui explique que d'une certaine manière, Bart Hill sera plus libre de faire des choses utiles maintenant qu'il a été démasqué. Et Kilroy raconte que d'ailleurs, s'il a agi de la sorte, c'est qu'il travaille pour un mauvais journal qui ne cherche pas à aider les gens. Alors que si Bart Hill se servait de sa fortune pour fonder un nouveau journal qui dirait la vérité, pour vraiment informer les gens, être utile, leur rendre service, cela changerait tout. Séduit par la proposition, Hill accepte et rapidement rencontre un agent immobilier qui, à son tour, est d'accord pour devenir le manager du nouveau journal. C'est un homme mûr, au visage rond, avec des petites lunettes, qui accepte sans hésiter. En quelques pages, Biro vient de donner sa version fantasmée de ce que Gleason vit à Newcastle, décrivant la guerre entre les deux journaux. Même le fait que Daredevil soit démasqué sans ménagement, alors qu'il est un héros, peut se rapprocher de l'acharnement dont souffre Gleason, parce que c'est un militant antifasciste et pacifiste. D'ailleurs, l'agent immobilier qui devient le business manager de la revue est le portrait craché de Gleason. Malheureusement pour Lev Gleason, ses problèmes ne se limitent pas à des procès politiques. Les comics eux-mêmes sont en train de devenir un problème, plus qu'un remède. Dans l'après-guerre, les bandes dessinées sont de plus en plus critiquées, attaquées, soupçonnées de pousser les enfants à la violence et au crime. Même si son titre dit le contraire, la BD policière Crime Don't Pay est une cible de choix. Dès février 1947, Lev Gleason fait donc partie d'un petit groupe d'éditeurs de BD qui fonde l'Association of Comics Magazine Publishers, dont il deviendra le président 2 ans plus tard. Mais sans attendre, Gleason est un avocat fervent des comics. En février 1948, Lev Gleason tient d'ailleurs tête au fameux Frédéric Vertam, un psychologue autodéclaré ennemi des comics. Les deux hommes se retrouvent ensemble sur un plateau de radio. Le temps d'une émission, ils opposent leurs arguments. Ils se croiseront à nouveau en 1950, cette fois-ci sur un plateau de télévision. Dans un premier temps, ces tracas se situent surtout au niveau de l'image et de la réputation. Certes, certaines villes conservatrices interdisent la vente de comics jugés trop violents. En octobre 1947, par exemple, Crime Don't Pay est interdit à Chicago. Mais dans le même temps, la fin des années 40 correspond à un envol des ventes des publications de Gleason. Alors qu'à la même époque, pour faire une comparaison, Marvel est moribond. On sent néanmoins un tournant dans le comportement de Gleason, un virage. En 1948, dans le journal des anciens de son école, un de ses conscrits décrit comment il a eu des nouvelles de Lev Gleason, comment il a réussi dans l'édition des comics, et comment Gleason reste un, ouvrez les guillemets, incorrigible démocrate du New Deal. Le New Deal, c'était en 1933 l'effort de relance sociale du gouvernement Roosevelt après la crise de 1929. C'est assurément un moment plutôt à gauche pour les États-Unis. Or, on sait que dans cette période, Gleason n'était pas démocrate, il votait communiste. C'est la preuve, a priori, que désormais il est sur la défensive. D'ailleurs, en 1950, il fait paraître un éditorial dans les pages du Newcastle News où il proclame « Je ne suis pas communiste, je suis opposé au communisme ». On a vu pourtant que c'est faux, mais il faut sans doute le prendre dans le contexte de l'instant présent. Votant communiste dans le milieu des années 30, quand être communiste, c'était combattre Franco, par exemple, Gleason ne l'est peut-être plus du tout des années plus tard, quand la guerre froide s'installe et que Staline se révèle à peu près aussi humaniste, entre guillemets, que Franco. ...1951 accentue encore le tournant. Gleason met fin à la publication du Newcastle News pour cause de mauvais résultats financiers. Dans le dernier éditorial du journal, il explique que bien qu'il y ait des propositions de rachat, il préfère fermer boutique plutôt que vendre à des éditeurs qui n'auraient pas à cœur le bien-être de la communauté. On croirait lire ce que disait Daredevil 4 ans plus tôt en évoquant les mauvais éditeurs de presse. À peu près en même temps, Gleason abandonne la présidence de l'Association of Comics Magazine Publishers et se fait plus discret. Et c'est lourd de sens, puisque Gleason avait toujours été farouchement opposé à l'adoption d'un code des comics global. Tout au plus, il pratiquait dans ses publications une sorte de charte de bonne conduite, peu contraignante. Gleason parti, c'est bien un code des comics qui sera mis en place dès quelques années plus tard. En fait, il semble que les ventes des comics de Gleason commencent à accuser le coup. Les attaques des conservateurs contre les comics en général, et pas seulement ceux de Gleason, se multiplient. La distribution et la vente deviennent de plus en plus difficiles. À ce stade, les publications Gleason tente de donner des signes de bonne conduite. Par exemple, dans les années 50, le terrible Iron Joe, mâchoire de fer, l'ennemi de Crimebuster, revient. Mais cette fois-ci, il n'est plus nazi, il s'est rallié aux communistes. Et on comprend que, pour Gleason, c'est une volte-face. Le revirement de Gleason est tel qu'en 1953, il est contacté par le FBI qui l'interroge au sujet d'un autre homme, supposé être un activiste communiste, et qui a travaillé avec lui à la création de Chalut. Gleason, jugeant peut-être qu'il a assez de problèmes comme ça, n'essaie pas spécialement de protéger son ancien collègue. Il explique ignorer si l'homme est membre ou pas du Parti communiste, mais que par ses idées, il est certain certainement pro-communiste. En bon français, comprenez, je ne sais pas s'il est communiste, mais ça ne m'étonnerait pas. Et Gleason de jurer que lui-même n'a plus d'activité pro-communiste depuis 1939. La stratégie marche, le trouvant désormais inoffensif et de bonne foi, le FBI décide de classer son dossier en 1954. Alors, fini les problèmes? Eh bien non, en 1954, justement, une commission d'enquête du Sénat américain tente d'établir les liens entre la criminalité juvénile et le contenu des comics. Les débats de cette commission sont relayés par la télévision avec un effet dévastateur. L'opinion publique, en effet, se braque contre les crime comics. L'audition du patron de ces comics n'arrange rien à l'affaire. À ce moment-là, Gleason a un sursaut. Il demande à l'association des éditeurs de comics de pouvoir témoigner, ce qui lui est refusé. Et franchement, c'est sans doute un bien, car on imagine que les adversaires des comics se seraient fait un plaisir de laminer et de ressortir tous les deux. Dossier. Imaginez un peu, un éditeur de comics avec un passé communiste, qui plus est déjà condamné pour des activités anti-américaines, ça aurait été un bain de sang. Alors Gleason reste impuissant sur le banc de touche. Il ne peut défendre la réputation des comics. Il n'a guère d'influence sur le collectif des éditeurs qui en 1955 décide de mettre en application une mesure à laquelle il s'était toujours opposé. C'est l'instauration du Comics Code, un système d'autocensure qui interdit tout ce qui était jugé trop violent et pas assez moral, parfois en dépit du bon sens. Dans ce nouveau contexte, les bandes dessinées de Gleason connaissent le même sort que celles de ses comics. Elles tentent brièvement d'édulcorer leur contenu, mais les lecteurs n'accrochent pas à la nouvelle version. Quelques mois plus tard, une ancienne valeur sûre telle que Crime Don't Pay s'arrête dans l'indifférence générale. Faute de ventre, les titres disparaissent. Et faute de titres, les publications Gleason s'arrêtent à leur tour en décembre 1956. C'est à la fois ironique et injuste, car au même moment, du côté de DC Comics, on est en train de lancer un nouvel âge des comics, justement, avec l'apparition de Barry Allen, le nouveau Flash. Si les éditions Gleason avaient pu faire le dos rond encore quelques mois de plus, se recentrer à leur tour vers des super-héros tels que Daredevil ou Crimebuster, tout aurait été différent. À cette époque, la famille Gleason quitte Chapaka et disparaît totalement du monde de l'édition ou du militantisme. Plus de comic book, plus de feuilles de chou vantant les mérites de l'Union soviétique. Gleason se fait véritablement oublier. Il a presque la soixantaine et il devient agent immobilier, un travail où on ne lui pose pas trop de questions sur sa vie d'avant. Et au final, Gleason meurt une quinzaine d'années plus tard dans un relatif anonymat. Gleason est oublié, mais sa maison d'édition pourtant va laisser des traces, et même un héritage moderne pourrait-on dire. A commencé par l'émergence d'un nouveau titre d'Ardeville chez Marvel, moins de 8 ans après la disparition de celui de Gleason. Bien sûr, Stan Lee, travaillant dans les comics depuis les années 40, ne pouvait guère ignorer l'existence du premier d'Ardeville. A défaut d'avoir les mêmes ventes qu'un Superman ou un Batman, le Daredevil des origines a eu pendant des années des ventes solides et régulières. Bien sûr, un nom, ce n'est jamais qu'un nom. Et ce n'est pas parce qu'on utilise le même nom à 8 ans d'écart que cette filiation est forcément établie. Néanmoins, la situation devient croustillante quand on sait que non seulement Charles Biro, le responsable éditorial de Gleason, et Stan Lee se connaissaient, mais qu'en plus dans les années 50, ce dernier téléphonait régulièrement à Biro pour lui demander des tuyaux. A cette époque, en effet, les revues Marvel, alors connues sous le nom d'Atlas, ne se vendaient pas du tout. Biro se vantait que le jeune Stan Lee l'appelait pour lui demander quel était son secret pour vendre autant. Ces dires sont appuyés par le témoignage du dessinateur Bob Fujitani, qui a travaillé autant pour les Gleason que pour Marvel. Dans le magazine Alter Ego numéro 23, en 2003, Fujitani explique « Stan Lee téléphonait souvent à Charlie pour lui demander des idées. » Et il poursuit en expliquant que plusieurs fois, Biro a raccroché en s'exclamant « Ce type veut vraiment que je fasse tout pour lui. Donne-moi une idée par-ci, donne-moi une idée par-là. » En général, il faut toujours se méfier de ces déclarations unilatérales où un clan dit qu'un autre lui doit forcément tout. Mais pour le coup, il y a d'autres sources qu'on pourrait qualifier de camps opposés qui valident les dires de Biro. Sur son blog personnel, Tom Brevoort, l'actuel numéro 2 de Marvel, rapporte à ce propos ce qu'en disait John Romita Sr., qui a longtemps été un dessinateur phare de Spider-Man. Ce dernier avait pour habitude de dire que Stan Lee avait basé beaucoup de ses stratégies sur celles de Biro. Alors quand vous avez un pionnier de Marvel qui a longtemps travaillé avec Stan Lee, qui va dans ce sens, quand en plus ses propos sont adoubés par Tom Brevoort, à partir de là on comprend que Stan Lee savait très bien ce qu'il faisait en décidant de nommer son justicier aveugle Daredevil. Dans les années 60, le dessinateur Pat Morisi, un ancien collaborateur des éditions Gleason, a l'envie de relancer le Daredevil original. Il se renseigne donc pour racheter le personnage. Il contacte Gleason qui lui donne son accord. Mais Morisi se heurte à un refus de Charles Biro. Bien qu'il ne soit pas le créateur du personnage, rappelons que ce sont Don Rico et Jack Binder, Biro a été le scénariste pendant pratiquement l'intégralité de la série. Il était l'associé de Gleason et il se considère donc comme son copropriétaire. Et Biro demande des royalties sur les bénéfices éventuels plutôt qu'une vente nette. En raison des exigences de Biro, les négociations échouent. Et puis bien vite, l'existence du Daredevil de la Marvel complique de toute façon l'utilisation du nom. Alors, Morisi se rabat sur un plan B, il s'inspire de Daredevil de Gleason pour créer chez Charlton Comics un nouveau héros qui reprend la base du costume rouge et bleu de Daredevil et auquel il donne un nouveau nom. La création de Morisi sera le héros Thunderbolt. Une vingtaine d'années plus tard, Alan Moore et Dave Gibbons vont procéder de la même manière. S'inspirant des héros de Charlton Comics, ils en créent des avatars pour les besoins d'une nouvelle BD. Daredevil du Thunderbolt devient, dans les pages de Watchmen, le héros Ozymandias. Ironie, là encore, Ozymandias est un personnage pour qui la fin justifie les moyens, prêt à tout pour mettre fin à la guerre froide, quitte à provoquer la mort de milliers de personnes. Même s'ils sont très différents, le discours de Daredevil de 1941, prêt à tout pour la paix, résonne d'une certaine manière très déformé dans la philosophie d'Ozymandias. Les héros de Lev Gleason sont depuis tombés dans le domaine public américain. Daredevil est utilisé de nos jours par plusieurs éditeurs. Par contre, la présence du Daredevil de Marvel, plus connu, fait que la plupart de ceux qui l'utilisent ont choisi de le rebaptiser. Seul Eric Larsen, dans les pages de la série Savage Dragon, continue d'employer ce nom de Daredevil pour le personnage originel. Je vais finir ce premier épisode d'Aventure Fiction avec une sorte de bibliographie. J'ai construit cette chronique à partir de trois sources principales. À savoir, premièrement, le dossier que le FBI tenait sur Lev Gleason. Si cela vous intéresse d'en savoir plus, il est trouvable en ligne. Et je vous rappelle qu'il fait quand même une centaine de pages. Il y a aussi la bibliographie écrite par le petit-neveu de Gleason, Brett Daking, qui a pour titre American Daredevil, Comics, Communists and the Battles of Lev Gleason. Alors elle est très riche d'informations sur la période de Shipaka, mais délaisse un peu le contenu des comics. Et c'est donc la troisième source que j'ai utilisée, la source importante, la source la plus importante d'ailleurs, les comics d'origine que l'on peut trouver en particulier, puisqu'ils sont tombés dans le domaine public, sur un site où ils ont été digitalisés, le site Digital Comics Museum. Enfin, j'ai écrit il y a quelques années un livre intitulé Comics en guerre, aux éditions Histoire et Collection, où je parle entre autres choses des aventures de Daredevil et Pat Patriot pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore de cette fameuse BD sur Guy Mocquet. J'espère qu'Aventure Fiction, aventure avec un S et fiction singulier, vous aura intéressé et peut-être même surpris. Alors, vous verrez dans les épisodes à venir l'éventail des sujets que je veux traiter. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et faire tourner le lien de ce premier épisode. Vous pouvez aussi participer à l'existence continue d'Aventure Fiction sur la page Tipeee du même nom, et je vous rappelle que donc le lien est dans la description de l'épisode. Avant de vous quitter, quelques remerciements. D'abord aux premiers tipeurs qui ont déjà rejoint l'aventure sans attendre le premier épisode et qui ont déjà contribué à la bonne marche de Aventure Fiction. Et ça, c'est une surprise. Je m'attendais pas à ce que les gens le fassent, et c'est d'autant plus sympa de leur part. Je n'oublie pas non plus le compositeur Sofiane Alcurdi qui signe le générique d'Aventure Fiction. À bientôt pour un sujet très différent.